RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un des plus grands peuples autochtones de pasteurs nomades du continent qui vit dans la bande sahélienne et au-delà. On les appelle les Fulani ou encore les Peuls. Leur parcours de transhumance qui peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont entièrement tributaires de l'environnement qu'ils rencontrent. Mais depuis quelques dizaines d'années, la violence des changements climatiques et ses multiples conséquences ont bouleversé ces écosystèmes. Système fragile. Les animaux et les hommes sont condamnés à survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Rencontre avec les peuls Bororo du Tchad, c'est un grand reportage d'Arnaud Jouve.
Le peul est déjà un grand groupe présent dans plus de 23 pays en Afrique, mais nous sommes des parties des peuls Bororo qui sont dans 5 pays, Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria et la République centrafricaine. Nous sommes des éleveurs de bétail qui sont de baies rouges à grandes cornes. Et ce sont ces baies-là qu'on appelle Mbororoji. Un peul est toujours lié à son animal qui est la vache. Et du coup, pour nous, ce n'est pas utiliser l'animal pour l'économie ni pour le prestige. Mais c'est une identité pour nous. Donc on dit toujours, un peul doit avoir son bé, le lait, sa brousse. Donc c'est cette identité qu'on défend. On dépend aussi de là où les animaux nous amènent. Donc de cette terre qui est vaste. Les animaux, c'est eux qui sentent la saison de pluie pour nous. C'est eux qui sentent la sécheresse pour nous. C'est eux qui nous guident dans nos déplacements. Donc, on dépend de cette trajectoire où c'est eux qui sont devant et nous derrière eux.
Indou Oumarou Ibrahim, qui nous parle de sa communauté, est la coordinatrice de l'Association des femmes peules autochtones du Tchad, l'AFPAT. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes voix des peuples autochtones d'Afrique qui tente de faire entendre à l'international le drame que vit son peuple face au changement climatique. Indou Oumarou.
Avec les impacts du changement climatique, il n'y a pas assez de ressources sur l'agriculture, la pêche. Il y a des gens qui quittent d'autres régions, qui viennent autour de cette région. Et dès qu'ils voient un animal pâturer et il n'y a pas quelqu'un à côté, tout de suite, ils le volent. Les peuls sont confrontés à plusieurs problèmes de l'insécurité dans toute la région. Déjà, avec les phénomènes nouveaux du Boko Haram, avec les coupeurs de route, avec les hommes armés qui, soi-disant, protègent des gens de ces conflits armés. Donc, on se retrouve encadré par toutes ces criminalités dans nos terres. Si je prends juste l'exemple du tour du lac Tchad, c'est le phénomène des Boko Haram. Donc, dans toute la région, il y a la pauvreté qui est accélérée, il y a la vulnérabilité des gens. Alors, ça favorise les recrutements chez les groupes terroristes, mais les groupes terroristes occupent plus les petits îlots. Or, ces îlots ont aussi du pâturage, où pendant la saison sèche, normalement, on traversait avec les bétails pour aller manger de l'herbe fraîche. Mais tous ces endroits maintenant sont inaccessibles. On est limité dans nos mouvements. On a peur d'aller pour ne pas tomber dans un groupe où soit ils nous tuent, ou soit ils prennent des animaux. Alors, on ne fait plus la transhumance transfrontalière jusqu'au Nigeria avant on allait.
Plusieurs rapports sur l'Afrique pointent le Tchad comme l'un des pays les plus impactés par les changements climatiques, et les peuls Bororo en sont l'illustration. Je décide de partir à leur rencontre. Depuis le matin, nous avons quitté N'Djamena et pris la route du nord pour rejoindre la communauté d'Aladji Moussa Amani en transhumance depuis le lac Tchad. Dans le 4x4, conduit par Youssouf Idriss de l'association, je suis accompagné par Aïssatou Marou, la trésorière de l'AFPAT, par Mahamat Saleh Abdelaziz, le traducteur, et par le colonel Bouba Soumaïn, venu spécialement pour assurer ma sécurité. tout son peuple Mbororo est très proche de la communauté.
Donc là, on vient de quitter le goudron.
Oui, c'est lui qui nous attendait au bord du goudron, là. Le voilà devant nous avec la moto. C'est lui qui nous suivant jusqu'à leur campement.
Là, il va nous conduire jusqu'à la communauté. On va emprunter la piste. Et certainement, après, on va quitter la piste pour aller seulement dans la brousse comme ça, sans orientation, jusqu'à arriver à leur campement.
D'accord.
Donc là, on a quitté même la petite piste.
Oui, on a quitté la petite piste. Maintenant, on suit seulement la moto entre les petites arbustes là.
Voilà, là, on est tout terrain. Là.
Ouais. Ici, il n'y a pas de ralentisseur ici. Donc, on s'en va comme ça.
Il n'y a ni route, ni repère, ni rien. Donc, ils se repèrent naturellement comme ça. Ils connaissent quand ils disent que nous sommes dans cet endroit. Ils montrent la direction et ils traversent seulement à travers la brousse. Rien ne peut les arrêter. Juste s'il y a un arbre, ils le contournent, mais ils continuent tout droit. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout, du tout.
Et nous, on suit.
Nous, on suit avec notre 4x4. On va derrière jusqu'au campement. Et s'ils nous laissent là pour nous dire de sortir, alors là, on va merder. Oui. Voilà, on est arrivé.
Ouais. Merci Arnaud. Soyez la bienvenue.
La communauté est dispersée sur une vaste étendue, car chaque famille, pour préserver son intimité, campe dans un endroit différent avec ses bêtes. Les zébus, dotés de cornes majestueuses, attendent auprès des hommes de pouvoir partir pour se nourrir. Devant moi, un éleveur improvise un balai et, par des simples ordres, fait tournoyer son troupeau à droite, à gauche ou face à moi avant de les libérer.
Ça va comme ça.
El Hadj Moussa Amani me rejoint. C'est le fils du chef de la communauté. Son père étant trop âgé, c'est lui qui mène le clan dans la transhumance. C'est lui qui est venu nous chercher en moto depuis la route pour nous amener au campement. Il me montre ses vaches.
Regarde, j'ai près d'une soixantaine de vaches et elles reconnaissent leurs propriétaires. Elles sont toujours avec nous et le chemin est très long. Nous cherchons toujours le meilleur endroit pour nos bêtes. Et là, nous remontons sur le lac Tchad. Nous y serons dans une quarantaine de jours et nous bougeons presque chaque 2 jours. Mais depuis la sécheresse de 85, tout est dégradé. Il y a de plus en plus de terres occupées. Les couloirs de transhumance se bouchent. Et à chaque fois, pour pouvoir passer, c'est des problèmes. L'environnement change et tout se complique. De nouvelles maladies que nous ne connaissions pas touchent le bétail. Les herbes ont changé. Les mares disparaissent. Il y a 40 ans, ici, aucune voiture n'aurait pu passer. C'était recouvert de forêts. Il y avait plein de lions, des hyènes. On pouvait jouer avec les gazelles et leurs petits sans que rien n'arrive. Aucun véhicule ne pouvait traverser tout ça. Nous étions les seuls à pouvoir passer avec la transhumance. Et regardez maintenant, tout est devenu espacé. Il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'arbres. Les lions ont disparu, les pintades qui se posaient sur les bœufs ont disparu. Tout a disparu. Avant, il y avait 2 mois d'intense chaleur et la pluie arrivait. Maintenant, on peut attendre plus de 7 mois avant que ça n'arrive. Depuis que je suis enfant, j'ai vu la nature changer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on se sédentarise, on va tout perdre. On oubliera même les noms des arbres.
À une centaine de mètres de là, un jeune s'apprête à partir avec un autre groupe de bêtes. Je vais le retrouver.
Je m'appelle Ali Al-Hadji Moussa. J'accompagne les troupeaux. Nous avons quitté les rives du lac Tchad à la saison des pluies, car en ce moment-là, il y a trop de moustiques. J'aime cette vie. Mais le problème, c'est que la brousse est devenue très petite. Beaucoup de gens viennent pour labourer la terre. Il y a des champs qui se créent par-ci, par-là, et les lieux de passage pour nous sont devenus très étroits. Les gens ont des coupes-coupes et des arcs, et quand nous passons, s'il y a une bête qui s'aventure sur un champ, c'est la bagarre directement. D'année en année, je vois les choses changer négativement. Chaque année est différente de l'année précédente, et à chaque fois, on perd quelque chose. J'ai l'impression qu'on régresse, mais moi, je suis un peu. C'est ma langue, c'est ma dignité, et c'est la seule que je connaisse.
Un peu plus loin, sous quelques nattes enroulées qui serviront pour le couchage du soir, des femmes sont rassemblées avec les plus jeunes enfants autour d'Adama Koré, la première épouse du responsable du clan.
Je suis Adama Koré. Tu vois, le matin, quand je me réveille, je vais voir mes vaches et je les traie pour aller vendre le lait. Et pendant ce temps, on laisse partir les animaux dans toute la brousse pour qu'ils aillent brouter. Avant, quand on envoyait les animaux le matin, on ne les laissait pas partir le soir ou inversement, car il y avait beaucoup de bonnes herbes. Mais maintenant, il n'y a plus rien. L'herbe a changé et ne convient pas aux bêtes. Et puis, toute la brousse a été vendue. Il y a quelques jours, un oncle a été fait prisonnier. Il a été attaché et battu. On lui a fait payer beaucoup, beaucoup d'argent pour être passé avec ses bêtes, non loin d'un terrain privatisé. On lui a demandé « Pourquoi tu passes ici ?» Il a répondu que depuis sa naissance, ils sont toujours passés là avec les troupeaux. Le militaire lui a répondu « Tu ne dois plus passer ici, sinon la prochaine fois, on te fera des choses bien pires. Tu vois ça ? Nous, on n'a que le lait des vaches pour vivre. C'est difficile de les nourrir et on doit se déplacer beaucoup, mais les routes se ferment. Des fois, on est obligé de prendre le goudron, comme les véhicules. » Et ça, c'est très dangereux. Ça nous fait très peur. Les très jeunes enfants qui voyagent sur les vaches sont en danger. Si une vache s'effraie, à cause de la circulation, car en plus les gens klaxonnent ou jettent des pierres sur les bêtes, ça peut tuer nos enfants. Tout ça, c'est des conséquences du changement. Et on ne sait pas écrire, nous. On ne sait que parler, mais en dehors de l'association AFPAT. Qui nous entend ?
Assise à côté, sous le soleil, avec un très jeune bébé dans les bras, Ada, la deuxième épouse, souhaite aussi témoigner.
Nous sommes très heureuses et fières de vivre notre vie, surtout pendant la saison des pluies. Car quand il pleut, il y a une très belle odeur de la terre humide qui se lève. Et ça, ça fait notre bonheur. Quand on va sous un arbre enlever des feuilles pour un repas, les arbres sont pleins de feuilles. Dans la brousse, il y a plein d'herbes partout où les vaches peuvent pâturer. Et quand les vaches ont le ventre plein, il y a du lait. Et ce lait-là a un goût particulier qui fait notre bonheur. Quand il y a beaucoup de lait, il y a aussi beaucoup de beurre. Et ça nous rend très heureuses, car c'est ce qui nous donne des revenus. C'est une vie unique. Nulle part ailleurs il y a cette qualité de vie. Et on adore ça. Maintenant, c'est une période très difficile pour nous, car il n'y a plus ces herbes. Il n'y a plus d'ombre. Et c'est très difficile parce que les vaches ne sont pas toujours rassasiées. Et quand les vaches ne sont pas rassasiées, il n'y a pas de lait. Et quand il n'y a pas de lait, on ne peut pas nourrir nos enfants. On ne peut pas vendre le lait. Et donc, on n'a plus aucun revenu et plus de beurre. Et ça, c'est très dur pour nous. Avant, quand il y avait encore la bonne saison des pluies, c'est nous les femmes qui vendions le lait, le beurre, pour acheter à manger. Mais maintenant, comme il n'y a plus de vraie saison des pluies, ce sont les hommes qui vont nous chercher de la nourriture. Et parfois, ils sont même contraints de vendre un animal pour acheter à manger. Et ça, c'est très, très difficile à vivre pour nous tous. Nous ne voulons absolument pas nous séparer de nos animaux. L'histoire d'amour entre un peuple et sa vache, c'est une longue histoire. Les vaches sont plus qu'un enfant. Nos vaches, on s'approche d'elles, on les caresse, on cherche des bonnes herbes pour leur donner avec la main, tellement on les aime. Chaque animal a un nom. Si j'en appelle une par son nom, même si elle est dans le troupeau, elle se lève pour venir me voir. Même quand les troupeaux sont mélangés, si je siffle, mes vaches viennent me retrouver. Elles s'approchent, elles me lèchent, je les caresse, et il y a entre nous une grande tendresse. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Notre attachement à nos bêtes, c'est plus fort qu'avec les enfants. On les aime plus que tout. On ne peut pas se séparer de nos animaux. Et s'il y a une contrainte et que l'on est obligé de les vendre, c'est très douloureux. S'il y a une vente, celui qui achète doit attacher la vache, sinon l'animal va vouloir revenir. L'animal va pleurer. Et celui qui l'a vendu va pleurer aussi, pendant plusieurs jours. Tout ça arrive de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Et nous, ça nous rend tristes. Nous n'avons plus de festivités dans notre campement. Même les enfants, le soir, ne chantent plus. Ils ne dansent plus. Si tu vois qu'il y a une petite cérémonie avec des danses et des chants, c'est parce qu'il y a eu un mariage. Sinon, le cœur n'y est plus. Les vaches ne sont plus contentes. Et nous, nous ne sommes plus contents. Donc nous ne faisons plus la fête et notre tradition disparaît.
De retour à Paris, je retrouve Indou Marou avant qu'elle ne s'envole pour la COP24. Je lui raconte évidemment cette rencontre forte dans le Sahel tchadien, rendue possible grâce à elle, et nous parlons des impacts multiformes du climat, tellement visibles sur place et tellement loin des préoccupations du reste du monde. Indou Marou, pour conclure.
Depuis plusieurs années, mes grands-parents ont vécu le bonheur, ce qu'ils nous disent actuellement. Ils disent qu'on a eu des années de bonheur que vous n'aurez pas. Et qu'on a trop peur pour vos enfants. Alors, ces années de bonheur, pour eux, c'était avant l'impact réel accéléré du changement climatique. Moi, quand j'étais jeune, avec ma grand-mère, je partais en trait de lait. Je les vendais pour juste quelques centimes chez des gens qui n'en avaient pas. Je prenais les habits simples. Genre qu'on restait avec derrière le bétail, les chaussures en main, la grosse calebasse sur la tête, pour traverser des mares et des mares, marcher 5 à 7 kilomètres pour accéder à un petit marché ou un petit village pour vendre du lait. Avant d'accéder à ces marchés, on s'arrêtait au dernier mare pour se laver les pieds, mettre un peu de pommade sur les pieds et changer les habits pour être plus présentable afin de vendre du lait. Et au retour, juste à la sortie de ces marchés ou de ces villages, on enlevait les habits propres, on les pliait, et puis on portait nos habits normaux pour entrer dans la boue et partir. Mais en ce moment, ces mares ont disparu. Il n'y en a plus, même pas la trace. Ils ont disparu à jamais. Mais ça, ça me rend trop triste. Ces impacts impactent tout notre mode de vie. Nous, on n'a pas besoin de survivre. On est fatigué de survivre. On doit vivre. Et vivre pour nous, c'est vivre en harmonie avec notre environnement. C'est de pouvoir développer cette culture des connaissances, des chants, de danse, d'être heureux, d'avoir accès à ces laits qu'on a besoin, d'avoir accès à ces vaches, de s'asseoir et écouter les sons de la nature. Mais on ne peut pas faire tout ça maintenant.
Sur cette grande danse Peul se termine ce regard sur les Peul Bororo face au changement climatique, un grand reportage d'Arnaud Jouve sur une réalisation de Pierre Chaffangeon.